de faire la prière d'introduction. Et je voudrais demander aussi à la sœur Ruth de nous faire la lecture ce soir.
Merci, prions. Notre Dieu, merci pour la journée. Tu nous as gardés partout où nous avons été. Nous voulons maintenant nous tourner vers ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu éclaire chacun et chacune d'entre nous, éclaire ton serviteur qui a la direction, pour que nous puissions capter quelle est ta pensée, quelle est ta volonté, où est-ce que tu veux nous amener, notre Dieu. Le peuple ancien t'a servi et nous voulons découvrir au travers leur façon de te servir comment nous pouvons aussi te servir aujourd'hui. Bénis chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. Nous avons pleinement, du début à la fin, besoin de toi, parce que la parole, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit réellement nous remplisse et nous éclaire sur chaque pas que nous allons mettre, Seigneur. Pour ta seule gloire, nous te bénissons. Amen.
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 Merci beaucoup, Papa Célé, pour la prière. Nous allons écouter la lecture de la portion des Écritures ce soir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. La sœur Ruth va nous lire les 16 premiers versets. Ézéchiel 34, versets 1 à 16.
Ézéchiel 34, versets 1 à 16. Je lis la parole du Seigneur dans la version du second. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine, vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je le délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai dans tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les ramènerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen.
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 Merci, ma sœur Ruth, pour la bonne lecture faite. Frères et sœurs, nous entamons une autre portion dans ce livre d'Ézéchiel où le Seigneur parle, il va montrer qu'il va bénir le peuple. Et après avoir dit dans les chapitres précédents, notamment ceux qui y ont été jusqu'au chapitre 32, il a fait des remarques aux nations, il a parlé de certaines choses assez dures sur les nations du monde. Et au chapitre 33, qu'on a fini hier, c'était comme une transition vers une autre portion des Écritures où Dieu se concentre sur son peuple, sur Israël, pour lui parler de toutes les bonnes choses qu'il allait faire. Et le chapitre 33 qu'on a fini hier, c'était un peu comme une transition pour parler du rôle principal de la sentinelle qui doit avertir, parce que Dieu veut reparler encore au peuple. C'est comme ça qu'il a rouvert la bouche de son serviteur afin de communiquer toutes les bonnes paroles qui vont venir dans les 2-3 chapitres qui vont suivre. Mais aujourd'hui, dans cette première partie, il parle au peuple, mais à une catégorie particulière du peuple, c'est-à-dire les pasteurs. Et l'expression pasteur ici est à comprendre pas seulement au plan spirituel, mais c'est aussi à comprendre au plan politique, parce que à l'époque, le roi qui était établi sur le peuple était aussi considéré de manière métaphorique comme étant le pasteur qui devait gérer le peuple selon Dieu. Nous n'avons qu'à penser à David, la manière que Dieu lui a parlé, la manière même qu'il a géré le peuple, c'était un vrai pasteur, c'était un leader politique, mais c'est aussi quelqu'un qui a joué un très grand rôle spirituel. Parler des pasteurs, nous voyons ceux qui sont en charge de la mission confiée par le Seigneur à quelques personnes afin de s'occuper de son peuple, tant au plan politique qu'au plan spirituel. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre va parler aussi aux bergers, aux pasteurs. Dans ce cas ici, c'est essentiellement spirituel, comme nos pasteurs dans les communautés chrétiennes, les églises, un peu aussi comme au FUNES, le coordonnateur et ceux qui l'aident évidemment dans la tâche que le Seigneur nous confie. Voilà l'idée des pasteurs ici, et ces pasteurs sont caractérisés dans le texte ici. Il s'agit, si nous pouvons dire, rassembler les politiques avec ceux qui s'occupent des réalités spirituelles. Donc, il s'agissait de rois, de prophètes et de sacrificateurs. Le Seigneur leur reproche ensemble le fait qu'ils n'ont pas pris soin du peuple, ils n'ont pas fait paître le peuple de la manière que le Seigneur le voulait. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur travail en ayant dans leur cœur un but personnel, s'enrichir ou se développer eux-mêmes, mais au détriment du peuple. Comme un peu encore aujourd'hui dans des communautés chrétiennes, il y a des pasteurs qui vont évidemment siphonner le peuple pour leur ventre. En d'autres termes, ils vont s'enrichir au détriment du peuple et cela sans amener le peuple vers le souverain pasteur qui est l'Éternel, leur Dieu. Et le Seigneur Jésus, en venant aussi dans notre monde, il s'est positionné comme étant le bon berger, comme lui-même s'appelle. Dans Jean chapitre 10, il s'est présenté à son peuple comme étant le bon berger qui prend soin de son troupeau, au point même, évidemment, de donner sa vie pour son troupeau. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner dans ce texte pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire il prononce un jugement très sévère contre tous ceux qui sont en charge de son peuple, tant au plan politique qu'au plan spirituel. Et s'il a prononcé ces jugements, quelles en sont les conséquences? Qui sont ceux qui sont concernés? Qui sont les brebis grasses que le Seigneur aussi va vouloir détruire en même temps que les bergers? Qu'est-ce qu'il les représente? Et c'est ce que nous allons essayer de voir pour finalement, à la fin, nous dire, nous aimerions en tout cas ne pas ressembler à ces serviteurs égoïstes. Nous voulons ne pas ressembler à ces brebis grasses qui ont maltraité les autres brebis affaiblies. Voilà le cadre dans lequel nous avons besoin de réfléchir et méditer encore ce soir et partager ce que le Seigneur nous met à cœur. Je voudrais dire bon retour à notre sœur Abéné, qui n'a pas été avec nous pendant presque 3 semaines. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Bon retour, sœur Abéné. Voilà. Alors, frères et sœurs, je crois que le cadre est présenté. Nous pouvons demander la parole. Je nous rappelle que nous avons 2 minutes pour exposer ce que nous avons à cœur. Et si nous en avons encore beaucoup à dire, redemandons la parole qui nous sera donnée dans la mesure du possible. Voilà, frères et sœurs, le décor est planté. Nous pouvons partager la parole que le Seigneur nous a donnée. J'aimerais me rassurer que Papa José est là, oui, je vois, il est présent. Papa oui. José, si vous avez besoin de prendre la parole, vous pouvez la prendre.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je suis un peu dérangé par la rime, le tout, la toux, mais le Seigneur va m'aider. Si je peux prendre la parole ne fût-ce qu'une fois, pour notre édification, ça vaut la peine. Papa Pasteur, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis au premier verset. Ici, j'aimerais apprécier la méthode du Seigneur. Le Seigneur, au chapitre 33, pour ne parler que de ce chapitre qui nous suit, parlait d'une manière générale à ceux qui ont des responsabilités et aussi il s'est adressé à tout le peuple, sans distinction des classes. Mais ici, il prend une partie du peuple. Ce sont des dirigeants, des pasteurs, des bergers, à qui le Seigneur s'adresse d'une manière sincère et sévère. Et là, on voit bien que le Dieu que nous servons ne regarde pas des personnes. Il est supérieur à tous et il s'adresse à tout le monde selon sa conduite, la conduite de la personne. Vraiment, gloire au Seigneur qui ne tient pas compte de nos responsabilités, de nos rangs sociaux. Alors, pour être bref, je prends la dernière phrase du premier verset, l'avant-dernière phrase. Vous ne prenez soin que de vous-même, n'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Vous ne prenez soin que de vous-même. C'est vraiment mauvais. Ici, si nous prenons toute personne qui a une responsabilité, même des parents dans la famille ont une responsabilité. Et à chacun de nous, Dieu s'adresse en ces termes-là, vous ne prenez soin que de vous-même. Au lieu de prendre soin du troupeau, vous ne prenez soin que de vous-même. Et c'est une parole dure, mais nous devons changer. Je dois changer pour suivre ce que le Seigneur veut. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. C'est une parole. Au fait, le Seigneur ne mâche pas les mots ou il n'y va pas par quatre chemins. Le message est vraiment direct. Il vise effectivement une place privilégiée dans la population, les responsables, les pasteurs, les autorités. Dans le contexte ici, c'est le roi, tous ceux qui ont la charge de la conduite des affaires publiques, tous ceux qui doivent gérer et diriger les affaires publiques, le peuple, etc., sont concernés directement par, cette parole. Donc, on peut dire qu'il s'agit, quand on regarde, je vois que dans la Bible du pasteur, la numérotation est peut-être différente. Le verset en question dont le pasteur a parlé, c'est le verset 2, dans 1910.
Exactement.
Donc, on peut voir que de ce verset-là, peut-être jusqu'au verset 4, le Seigneur parle et les mots sont très durs, très directs. Le Seigneur n'y va pas par quatre chemins, démontrant que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne regarde pas l'apparence de gens pour pouvoir dire quelque chose. Ça nous rappelle comment le Seigneur Jésus-Christ parlait lui-même, au point que les Juifs l'ont reconnu en tant que tel. Ils ont dit, nous savons que tu ne fais pas acception de personne. Lorsqu'il faut, il faut déclarer la vérité, tu la déclares sans ménager qui que ce soit. Donc tu prends position pour la vérité. Frères et sœurs, personnellement, en lisant le texte, je me dis, qui est concerné? Jusqu'à quel point est-ce que je peux être concerné par ce que le Seigneur dit ici? J'ai la charge des responsabilités pour le peuple de Dieu. Je suis responsable de famille. Jusqu'à quel point est-ce que ce que le Seigneur dit ici me concerne moi? Et comment est-ce que je peux me mettre en règle vis-à-vis du Seigneur? Nous allons y revenir avec les différentes interventions que le frère et sœur vont aussi apporter. Papa Célé, on a Christine, vous avez la parole.
Oui, merci Papa José pour la parole. Je suis au verset 4 suivant, second, en révisé. Là, il est dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, mais vous n'avez pas non plus soigné celle qui était malade. Vous n'avez pas pensé celle qui était blessée, et vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec force, avec rigueur. Ce sont les mots très, très durs. Mais je vois aussi dans un autre sens. Aujourd'hui, le sens du berger dans le corps du Christ est en train de perdre vraiment sa valeur. Sens, dans le sens que le berger connaît et quelle est la bonne nourriture. Et quand le berger dit « J'aimerais que vous puissiez faire ceci pour bien grandir, pour avoir assez de vitamines », il y a beaucoup de brebis qui refusent cela. C'est ce qui fait que aujourd'hui les bergers, je peux dire aux membres de l'Église que s'asseoir chaque soir et méditer au sein des fumées, c'est vraiment indispensable. Mais vous verrez les gens ne pas prendre cela en considération, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité dans notre berger. Et même quand le berger dit de faire quelque chose pour le bien du peuple, ce n'est toujours pas bien pris. Mais je vois ici, le Seigneur est en train de réellement responsabiliser le berger pour qu'il fasse correctement leur travail. Voilà comment je tire une grande leçon dans ce verset 4. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Stélé. Je voudrais donner la parole au Père Thomas.
Oui, merci. Je suis aussi au verset 4 et 5, et même 6, comment le Seigneur décrit la mauvaise prestation du berger, qu'on appelle pasteur ici. Mais après avoir médité, j'étais dans la journée, j'étais quelque part au gym et j'ai cru entendre, on dirait, l'esprit me demandait quelle est ta bergerie. Et j'ai répondu que c'est à l'église quand j'enseigne l'école de dimanche et puis les gens chez qui j'enseigne, les pauvres et ensuite ceux qui sont dans le ministère de prière à l'église. Donc, c'est ça le berger. On parle de l'église. Mais l'Esprit de Dieu me dit que, en plus des membres dans l'église, mon épouse, c'est une église. Éphésiens 5, au verset 23 à 30, il est dit que je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'église pour la sanctifier et la présenter à lui sans ride ce jour-là. Donc, le mari que je suis aussi un souverain sacrificateur de l'église. Ma première église, c'est mon épouse. Et l'Esprit de Dieu m'a amené aussi à voir que, à part mon épouse, j'ai une autre église qui sont mes enfants, parce que dans le même livre d'Éphésiens, il est dit, au chapitre 6, il est dit, Père, verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais en les corrigeant et les avertissant selon le Seigneur. Donc, j'ai aussi les responsabilités d'élever mes enfants selon le Seigneur, c'est une autre église. Mais je vois l'Esprit de Dieu me dire encore que j'ai une autre église au travail. Ceux qui travaillent dans ma société ou dans mes affaires, ceux que je dirige, pour qui que je suis les dirigeants, la Bible dit que je dois les traiter en sachant que moi aussi, j'ai un maître. La Bible dit ici que maître agissait à l'égard des serviteurs. Abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est aussi mon maître. Donc, j'ai remarqué que l'église bergerie, c'est plus que les membres à l'église. Et j'ai vu aussi que si j'ai des responsabilités ici au FIMES, la même chose. Donc, ceux qui sont dans le travail, les dirigés sous moi, sont aussi de la bergerie. Donc, je dois prendre soin de la manière dont Dieu le crie ici. Merci.
Merci beaucoup, frère, d'avoir vraiment élargi cela. C'est une pensée qu'on allait, disons, utiliser
à la méditation. Pour
conclure
et non, aider, je la méditation
aider chacun de nous à comprendre ce que le Seigneur attend vraiment de nous. La manière que c'est présenté, d'abord par Papa Célé et puis ensuite par notre frère Thomas, on peut voir combien ce concept de pasteur, de responsable, c'est-à-dire de gardien de l'âme de l'autre, parce que c'est au fait en faisant un lien dans le chapitre précédent, comme le pasteur José l'a dit tout à l'heure, en disant, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle, je t'établis. Donc toi, tu vas faire attention à ce qui va sortir de ma bouche et ta responsabilité, c'est de l'annoncer aussi aux autres. Et lorsque le Seigneur choisit de parler à cette classe sociale élevée, c'est-à-dire les responsables, par expansion, on se retrouve un peu responsabilisé aussi. J'ai aussi cette responsabilité d'en prendre soin afin que son sang ne soit pas sur mes mains. Autrement, si je ne le fais pas, il peut mourir dans son mal, dans son péché, mais le Seigneur me redemandera son sang. Nous y reviendrons certainement, mais nous comprenons, si nous voulons d'abord voir les responsables, le verset 4 nous donne en fait les objectifs de travail pour un pasteur, pour un responsable, pour un père de famille. En fait, c'est en fonction de ces objectifs de travail que le Seigneur va nous évaluer. Je pense que nous sommes à la fin de l'année fiscale et bien souvent dans des organisations professionnelles, c'est aussi le temps, le moment de faire des évaluations des rendements. Comment est-ce que vous avez accompli votre travail en fonction des objectifs qui vous ont été assignés? Et là, je trouve que le Seigneur va, il fait son jugement par rapport à chacun des objectifs et ça montre aussi l'ampleur du travail d'un pasteur au sein d'une communauté. Nous y reviendrons. Frère Albert, vous avez la parole.
Merci, frère pasteur. Je souffre aussi de la toux, un peu la rhume. Hein. Que le Seigneur soit loué. Je suis au verset 6, mais bien aimé, c'est un passage qui touche à profondeur. Le verset 6 parle de troupeau de l'Éternel qui devient errant, dispersé un peu partout dans les montagnes. Personne ne s'en soucie, personne ne prend soin de ce troupeau. Ce passage est très profond, ça me rappelle trois choses. La première chose, mes bien-aimés, il n'y a pas meilleure façon pour Dieu de manifester son amour vis-à-vis de nous autres que de nous confier nos semblables pour que nous puissions prendre soin les uns les autres. Vraiment, c'est au-delà que le Seigneur, au-delà de ce qu'il peut nous donner. Il peut nous confier de gérer, je ne sais pas, la forêt ou quoi, mais quand Dieu nous donne la responsabilité de prendre soin les uns les autres, c'est vraiment la manifestation même de son amour et le vouloir même de partager une parcelle de son pouvoir vis-à-vis de l'homme. Et qu'est-ce qu'il veut? La seconde chose, mes bien-aimés, c'est comme ça que Jésus va poser à Pierre trois questions. Est-ce que Simon Pierre, tu m'aimes? Et Pierre qui répond oui. Alors, si tu es sincère, fais mon troupeau. Dieu ne demande pas plus que cela, que
de confesser cet amour-là qu'il nous a manifesté en commençant à le partager avec le prochain qui est avec nous. Parce que sinon, nous le faisons par des paroles et ce n'est pas sincère. Si nous ne pouvons pas être capables de gérer les âmes ou nos membres de famille, nos enfants, nos femmes, les gens autour de nous, il n'y a pas l'amour en nous. Et plus loin encore, mes bien-aimés, ça me rappelle cette belle chanson que nous chantons toujours. Écoutons l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Mais bien-aimés, le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. L'interpellation ici, est-ce que Dieu peut compter sur moi pour ne pas être son troupeau? Ou que je suis un homme de parole sans action? Merci, que Dieu soit loué.
Merci beaucoup, frère Albert. C'est vraiment important. Le prix d'une âme, c'est le sang versé. C'est Christ qui a payé de sa vie pour chaque âme. Et Paul va dire qu'il ne voudrait pas perdre l'âme pour qui le Seigneur a versé de son sang. Le prix a été tellement élevé que Paul va dire, je ne peux pas me permettre de voir la perte d'une âme, la perte de quelqu'un pour qui le Seigneur est mort. Et cela, il le disait dans un contexte où il fallait dire, même s'il faut que je m'abstienne même de manger de la viande, si la viande devient, un objet de scandale pour celui pour qui Christ est mort, alors je veux m'en abstenir tout simplement dans le but de ne pas perdre celui pour qui Christ est mort. On voit que c'est vraiment des paroles que nous avons là qui sont très, très profondes, très sérieuses, et les pasteurs qui sont au milieu de nous les prennent certainement à cœur. Tous ceux, toutes celles qui ont des responsabilités, tous ceux à qui le Seigneur a confié ne fût-ce qu'une âme, comprennent que le Seigneur est sérieux quand il s'agit de son peuple. Ça veut dire qu'on voit la place qu'une brebis occupe devant le Seigneur. Papa Célé, vous avez encore la parole.
Oui, merci Papa José pour la parole. Je suis au verset 8. Au verset 8, je vois que les brebis qui s'éloignent de la bergerie sont en danger, au pillage, et que les brebis sont la proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger, et que je vois, quand je lis ces versets 8, le texte des Hébreux 10:25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns.
»
Donc, ces quelques-uns qui abandonnent leur assemblée, ils ont d'abord un problème de nourriture. Ensuite, ils sont en danger de plusieurs maux qui les guettent. Parce que nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et une des grandes leçons que je tire, c'est que c'est quand nous sommes ensemble dans la bergerie que nous sommes fortifiés ensemble, nous sommes nourris ensemble, comme Paul dit, au point où nous sommes arrivés, avançons ensemble. Et quand quelques-uns s'écartent pour telle ou telle raison, il y a des chrétiens trimestriels, il y a des chrétiens semestriels, il y a les chrétiens annuels, on le voit seulement quand il y a Noël ou quand il y a Pâques. Tout comme on voit certains une fois tous les 3 mois. Tout cela, ça m'interpelle vraiment pour dire, nous devons vraiment apprendre à rester dans la bergerie et grandir ensemble. Amen.
Amen. C'est vrai, vous vous rappelez, frères et sœurs, lorsqu'on était à l'école primaire, on a étudié la chèvre de M. Séguin. le texte de Alphonse Bédé, cette chèvre Blanquette qui voulait aller ailleurs parce qu'elle pensait que l'herbe ailleurs est toujours plus verdoyante. Mais en sortant de ces lieux où elle était attachée, en fait, elle était en danger, elle s'exposait au danger. Le loup était dans ces herbes verdoyantes qu'elle convoitait. Et nous connaissons la suite, ce que la petite chèvre Blanquette a été dévorée par le loup. De la même manière, quitter nos assemblées nous expose aussi au danger. L'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Papa José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, frère. Je suis encore au verset 8. Phrase qui commence ainsi. Français courant. Mm-hmm. En effet, mes bergers ne se sont pas souciés de lui. Au lieu d'en prendre soin, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Oui, c'est pourquoi il y a eu cette dispersion. Le troupeau n'est pas resté encadré par le berger ou le pasteur, parce que le pasteur ou le berger ne se sont pas souciés de la brebis, des brebis. Ils se sont souciés d'eux-mêmes. Alors ici, la responsabilité où la colère du Seigneur tombe sur le berger ou le pasteur qui ne prend pas soin, le berger, qui permet que le berger et la brebis soient partis ailleurs. Parce que ils ne se sont pas souciés d'eux, mais ils se sont souciés de leur personne. Donc, à tous les responsables que nous sommes, que nous représentons, mettons de côté les rois, les sacrificateurs, les prophètes et tout ça. Oui, mais nous voulons vraiment prendre cette parole comme... si le Seigneur s'adressait à moi et à toi, et c'est à chacun de nous de voir dans quel point il a été négligent au point où la personne qui devait être encadrée n'est pas là. Donc, c'est une responsabilité, une interpellation auquel le Seigneur s'adresse à chacun de nous. En un mot, nous devons vraiment faire un travail qui doit être apprécié par le Seigneur. Parce que quand le Seigneur voit la façon dont nous travaillons, quand le Seigneur regarde la brebis qui est partie là-bas et dévorée par un lion ou un loup, alors que nous sommes là, bien aimé, ça fait du mal au Seigneur. Et nous sommes responsables. Voilà, je m'arrête ici, bien aimé.
Merci beaucoup.
C'est une qui est un combat à nous.
Merci. Avant de donner la parole à Papa Thomas, je voudrais nous rappeler, selon ce texte, quels sont les termes, quels sont les objectifs de travail que le Seigneur confie au pasteur. Et c'est vrai que le contexte, il fallait qu'on voit d'abord de qui il s'agissait, c'est qui un pasteur. Mais lorsque nous méditons ce texte aujourd'hui, le Seigneur nous parle à chacun de nous, à moi en particulier. Le verset 4, dans 8 secondes, j'aimerais nous rappeler encore ce que le Seigneur attend des pasteurs. Fortifier les brebis qui sont faibles. Guérir celles qui sont malades. Panser les blessures de celles qui sont blessées. Ramener celles qui s'égarent. Chercher celles qui s'est perdues. Et surtout, en faisant tout cela, sans les dominer avec violence ou dureté. Je voudrais rapidement voir ce que le Nouveau Testament dit au pasteur dans 1 Pierre 5, à partir du verset 2. Le Seigneur nous dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Voilà la charge ou les objectifs de travail que le Seigneur confie au pasteur. Papa Thomas, vous avez la parole.
Moi, je voudrais bâtir justement avec ce que le modérateur vient de dire, les tâches données au berger. Le pasteur, comme il l'a dit, paître les brebis, fortifier les faibles, soigner les malades, panser les blessés, ramener les égarés, chercher la perdue, la protéger contre d'être dévorée contre les autres, rassembler les brebis. Tout ça, le Seigneur attend ça du berger. Mais je me pose la question, est-ce que moi la brebis, moi le chrétien, si je suis dans l'église, moi, le chrétien dont on doit prendre soin, est-ce que je permets, j'accepte que le pasteur ait cette responsabilité vis-à-vis de moi? Parce que aussi le problème que l'église a aujourd'hui, c'est de mépriser aussi le pasteur et trouver en lui un commun de mortel, quelqu'un qui n'a aucun droit, quelqu'un qui attire les ridicules. Parce que le Seigneur va dire à la brebis, en Hébreux chapitre 13, le Seigneur va nous dire « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas de votre avantage, davantage. » Et Galates 6:6 va dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui qui l'enseigne. Donc, je me sens aussi, je vois aussi de l'autre côté le revers de la médaille. Est-ce que le chrétien dans l'église accepte, comprend, connaît et se rappelle que le Seigneur donne au berger de veiller sur son âme, qu'il la rendra compte, et que le travail que Dieu lui donne, s'il le fait, je dois l'accepter comme normal et pas bouder et trouver qu'il exagère, il faut ceci, il faut cela, alors que réellement, c'est ce que le Seigneur lui demande de faire. Merci.
Merci beaucoup, Papa Thomas, de parler aussi de l'autre côté, parce que il est vrai que le texte est principalement adressé au pasteur. Ce que le frère vient de dire à son paysan d'or, dans la mesure où, lorsqu'on voit cette charge, cette liste des responsabilités que le pasteur doit avoir, on entend dire beaucoup aussi les membres des églises dire que le pasteur devrait aller travailler pour pouvoir se supporter. Vous comprenez qu'un pasteur qui doit aller travailler et accomplir cette liste ici des tâches, il faut qu'il soit vraiment un super-homme pour pouvoir le faire. Et c'est ceux qui doivent travailler, ceux qui travaillent, ils le font effectivement parce que la brebis a perdu de vue effectivement que les serviteurs méritent aussi sa nourriture. Donc il y a une balance à faire, il y a un équilibre à avoir. Merci frère de pouvoir d'apporter cela. Cela étant dit, on peut se concentrer aussi sur cette liste et on voit au verset 10, le Seigneur va dire qu'il prend lui-même les choses en main. Il prend les choses en main pour pouvoir nourrir lui-même son peuple, en prendre soin. On peut voir le verset 10. Le verset 11, il va dire, « J'aurai moi-même soin de mes brebis, j'en ferai moi-même la revue. » Au fait, il va prendre sur lui d'exécuter, de réaliser cette liste des charges qu'il avait confiée au pasteur, et il va montrer dans les moindres détails. Au verset 12, il va dire, il va lui-même inspecter son troupeau, c'est-à-dire il va regarder, en inspectant, on voit c'est qui la brebis qui est en forme, qui est celle qui est malade, où est-ce qu'elle a mal. Au fait, c'est un travail minutieux, c'est un travail de longue haleine, parce que, dépendamment de la grosseur du troupeau, ça peut faire beaucoup d'heures de travail, et c'est une responsabilité qui ne nécessite pas d'être accaparé ailleurs par une autre activité. S'il faut vraiment faire l'œuvre comme il faut le faire, il faut être dédié, dévoué totalement à cette tâche-là. Même jusqu'au verset 16, le Seigneur va dire que lui-même va aller à la recherche de la brebis qui est perdue, afin de la ramener, afin de panser les blessures, de fortifier celle qui est malade. Il va s'adresser aux brebis qui sont grasses, qui sont vigoureuses, en disant « je vais les détruire ». Pourquoi? C'est un peu comme dans l'Église, toutes ces personnes qui voient le pasteur mal faire les choses, mais qui le soutiennent quand même, qui vont aller jusque évidemment à soutenir le pasteur au détriment des membres pour pouvoir dominer sur eux. Alors que ces brebis grasses étant aussi, ayant aussi une certaine responsabilité vis-à-vis des autres, sont autant condamnés comme les pasteurs qui sont directement concernés par les textes. Mais à eux, donc aux pasteurs, à qui le Seigneur reproche des choses, le Seigneur dit au verset 16 qu'il y a aussi des brebis grasses, vigoureuses, que le Seigneur va aussi détruire. Frères et sœurs, si nous examinons tout ce qui a été dit, notamment d'abord les textes que nous avons lus, les différents partages qui ont été faits, nous pouvons nous dire qu'à un niveau ou à un autre, chacun de nous se sent concerné. Les pasteurs des églises, au premier point, c'est vrai. Tous ceux qui ont une certaine responsabilité dans l'église aussi. Le frère Thomas nous a fait voir que jusqu'à un certain point, le mari dans la maison, vis-à-vis de sa femme, les parents vis-à-vis de leurs enfants, les responsables professionnels à son travail, tous ceux qui ont une certaine charge, qui ont des gens sous leurs ordres, et on peut aussi dire d'une manière globale, le Seigneur a placé le prochain, mon prochain, à côté de moi, évidemment, pour que je veille dessus. Ai-je accompli, ai-je réalisé la liste des tâches que le Seigneur nous demande ici? Certes, l'attention pour aujourd'hui doit être focalisée sur les pasteurs, sur ceux qui ont cette charge. C'est une lourde responsabilité. Nous n'avons qu'à voir ce que le Seigneur attend de ses pasteurs pour pour comprendre combien cette profession, ce travail est vraiment noble, mais c'est une activité de longue haleine, une activité minutieuse qui mérite le soutien de la part des hommes et des femmes qui sont autour du pasteur pour l'aider, pour l'épauler, afin que l'œuvre soit menée à bon port. On comprend que c'est une activité, un travail qui nécessite non seulement le soutien matériel, physique, financier, mais c'est beaucoup plus encore un soutien spirituel. Est-ce que je prie pour mon pasteur? Ou est-ce que je suis là juste pour dire ce qui ne va pas chez lui? Combien de temps est-ce que je peux me décider, voyant cette liste, cette charge, qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles à réaliser en même temps? Ça peut être le cas dans mon église, mais c'est aussi le cas au FIBES aussi. Est-ce que je prends au moins chaque semaine un temps dédié, mis à part, juste pour recommander mon pasteur, recommander notre coordonnateur au Seigneur, afin qu'il ait les capacités nécessaires pour faire ce que Dieu attend de lui. Le jugement prononcé ici est très grave, c'est sérieux, frères et sœurs. Dieu ne nous parle pas à l'air. S'il nous montre cela, s'il nous met à cœur, si on sent que le poids est énorme, la charge est lourde à porter, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres afin que le travail soit parfaitement accompli au goût de notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, si vous êtes comme moi ce soir, je voudrais, avant la fin, demander, lorsque la personne qui priera le fera, qu'on se joigne de tout cœur à la personne afin que nos pasteurs, afin que notre coordonnateur, le pasteur Célé, que Dieu les trouve fidèles au poste, accomplissant parfaitement cette liste de charges, de responsabilités que Dieu attend ou veut les voir accomplir. Ce n'est pas évident de détecter les brebis qui sont fortifiées. J'ai bien aimé aussi l'intervention du frère Thomas lorsqu'il dit « Est-ce que j'accepte que le pasteur travaille auprès de moi ?» Ce n'est pas évident dans notre monde, ici en Amérique du Nord, où tout le monde va vous dire toujours « ça va bien », même quand vraiment ça ne va pas. Parce qu'on ne veut pas faire paraître ce qu'on vit, ça, c'est devenu peut-être une question de fierté. Je ne peux pas dire ça ne va pas, sinon on va me prendre pour un faible. Et aujourd'hui, dans nos églises, souvent, nous disons que ça va bien, alors que nous savons pertinemment que ça ne va pas au moment où nous prononçons ça va bien. Ça, c'est refuser que quelqu'un passe son ministère auprès de moi, surtout s'il s'agit du pasteur qui nous le demande. Frères et sœurs, la tâche est annoncée et le Seigneur veut que ses serviteurs accomplissent leur travail parce que tout cela, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'eux. Et le verset 4 reste un peu comme une référence pour nous, les brebis, mais aussi pour les pasteurs, que de temps en temps, on regarde pour dire qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que je n'ai pas accompli afin de mieux l'accomplir dans la suite du temps. Nous nous arrêtons là pour ce soir. Je voudrais donner la parole au pasteur Célé pour les annonces. Et papa Thomas, est-ce que ça vous dirait de prier pour notre communauté?
Oui, je vais le faire.
Oui, merci pour la parole, papa José. Juste saluer les frères et sœurs qui suivent avec nous la parole de Dieu depuis North Carolina, depuis le Québec et l'Alberta.
Merci beaucoup. En passant, pour les frères et sœurs qui sont devant leurs ordinateurs, nous avons, ce pasteur a mis en ligne la bannière pour le temps biblique de Belgique. Vous pouvez la consulter afin d'avoir l'information dont vous auriez besoin. Encore une fois, on nous rappelle que c'est aussi un bon moment où nous pouvons partager la communion fraternelle et partager aussi la parole du Seigneur avec notre modérateur principal, le pasteur Luc Lukusa. Papa Thomas, vous avez la parole pour la prière.
Prions, frères et sœurs. Merci, Éternel, de nous avoir redressés et de nous avoir montré comment nous pouvons être de vrais bergers. Pardonne-nous, Seigneur, de tous les péchés que nous avons commis dans la mauvaise préséance, Seigneur Dieu, de notre manière de diriger, de notre manière d'être berger vis-à-vis du troupeau de toi, Dieu. Vis-à-vis, Seigneur Dieu, de nos épouses ou époux, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis, Seigneur Dieu, des gens que peut-être nous dirigeons, que tu as mis sous notre direction et pour qui tu attendais de nous de les nourrir, de les protéger, de panser les blessures, de corriger, d'aimer et de protéger contre l'ennemi, parce que nous devons en rendre compte. Tendre Père, pardonne-nous, parce que nous voulons être les vrais bergers que tu nous as appelés à être à tous les niveaux. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a dirigé, le docteur Mbala, soit avec lui à l'école, à l'université, Seigneur, qu'il soit, Seigneur Dieu, un homme d'influence pour la foi auprès de ses collègues professeurs, auprès, Seigneur, des étudiants à l'université, auprès des membres à l'Église et auprès, Seigneur Dieu, des armées, de gens qui dirigent à son travail. Tendre Père, nous prions que là où tu nous as placés sur le marché public des affaires, Seigneur Dieu, que nous puissions y apporter le Christ. Que nous puissions y apporter le message de Pâques, la résurrection. Tendre amène la résurrection dans notre zèle de méditation de la parole de Dieu. Ressuscite à nous, Seigneur, les zèles de prière. Ressuscite à nous, Seigneur Dieu, le courage que nous avions là, l'amour de la justice que nous avions autrefois, la soif de la justice, la crainte de l'Éternel. Ressuscite à nous, Seigneur, la foi en ta parole. Ressuscite à nous les ailes de propager l'Évangile. Ressuscite à nous, Seigneur Dieu des armées, d'aimer, d'honorer, de respecter le pasteur. Père, sois avec le pasteur Célestin. Bénis son épouse, Seigneur. Bénis-le dans la santé. Bénis-le dans la foi. Bénis-le dans les stratégies de diriger. Bénis-le, Seigneur, qu'il ait la grâce, qu'il trouve la faveur de tous les membres du bureau, de tous les membres, Seigneur, que nous sommes, afin que nous puissions savoir suivre la direction, Seigneur Dieu, selon ta vision, mais avec amour. Père, nous prions pour ceux qui nous dirigent, les autres pasteurs que nous avons dans le bureau, Seigneur, le pasteur Richard, le pasteur Joseph des États-Unis. Tendre Père, nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur Dieu, pour l'ancien Gaston. Nous prions pour ceux qui nous dirigent. Oh Dieu, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit conduit par toi, qu'il pèse les brebis, Seigneur, que tu as placé, Seigneur Dieu, sous leur direction, avec crainte de Dieu, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Tendre Père, si tu laisses le dirigeant être fauché, il va être tenté, Seigneur Dieu, de chercher des moyens faibles pour essayer de survivre. Mais Seigneur, quand tu ouvres les églises des cieux, tu bénis l'église et l'église a l'amour de soutenir l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu, l'homme de Dieu va être attaché à toi plutôt que de chercher à survivre. Ô tendre Père, bénis-nous. Mais nous prions pour les membres de l'église, les membres de FIMES, les membres de groupe des études bibliques. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les diriger, afin que, Seigneur Dieu, nous ayons aussi, Seigneur Dieu, de la déférence, du respect, et de l'amour, Seigneur Dieu, des armées
et de l'obéissance, Seigneur Dieu, et tout, et avoir la joie d'obéir, Seigneur Dieu, aux instructions selon ta parole afin que nous marchions au dessein que tu as placé devant nous. Tendre Père, quelle leçon ce soir, que chacun de nous en tire quelque chose, que les épouses soient soumises à leur mari, que les maris ce soir retrouvent dans leur cœur le désir d'aimer, Seigneur Dieu, les épouses comme Christ a aimé l'Église. Que les célibataires, Seigneur Dieu, tu les envoies dans des mariages qui honorent toi, Dieu. Ô tendre Père, que tu pourvoies aux besoins des brebis. Seigneur, là où tu as des vies de blessures, pense. Ô Seigneur, là où tu as vu de l'égarement, ramène. Là où tu as vu de, Seigneur, de la rébellion, enlève. Là où tu vois des maladies, guéris. Ô tendre Père, bénis les troupeaux. Parce que je lisais encore aujourd'hui, Seigneur, que tu connais les brebis te connaissent, nous te connaissons, nous écoutons ta voix, Seigneur Dieu des armées, tu nous connais et nous te suivons. Et personne ne peut nous arracher de la main du Père qui nous a donné à Christ. Et le Christ qui nous, et le Christ aussi nous garde dans la main, personne ne peut nous arracher de ta main. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur Dieu, jusqu'à ce jour. Bénis-nous, soutiens-nous, Seigneur. Ouvre les portes de l'argent. Ouvre les portes des visas, Seigneur Dieu, pour les séminaires qui se passent, Seigneur, en Belgique. Bénis-nous, soutiens-nous, Seigneur. Remplis-nous des craintes de Dieu et merci pour le passage de ce soir et de la repentance. Nous voulons être un peuple transformé au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, Papa Thomas, pour la prière. Demain, nous allons lire le reste de ce chapitre, c'est-à-dire du verset 17 jusqu'au verset 31. J'avais souhaité effectivement écouter encore davantage quelques frères et sœurs. Ce sera pour la prochaine fois. Notamment, je voulais aussi écouter le frère Charles et d'autres encore qui ont beaucoup de choses à partager avec nous. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse tous, frères et sœurs, et à demain.